Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast et écrivain poète de l'ensemble des textes présents sur voixpoétique.com. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une tension fondamentale qui traverse notre époque spirituelle, celle qu'il se situe entre le repli intérieur et l'ouverture au monde, entre la sécurité du connu et l'aventure de l'inconnu, entre un cosmos domestiqué, dans nos cœurs tout du moins, et l'immensité véritable qui nous dépasse infiniment. Ce poème nous parle d'un mouvement de retrait, apparemment spirituel, qui pourrait bien être en réalité une fuite déguisée. Et il nous interroge avec tendresse sur ce que nous perdons quand nous cessons de lever les yeux vers ce qui nous transcende. Écoutons ensemble cette lecture de mon poème intitulé « Cosmos du dedans ». Tu gardes les pieds ancrés dans cette terre que ta conscience a vu naître et ne lèves plus les yeux à la nuit tombée. Fièrement, tu me lances « Les étoiles habitent dorénavant mon cœur ». Plongeant dans leur ignorance, je préfère leur clarté au dedans de ma vie. Des périls de ce monde, tu m'as pourtant tant parlé. Quand ton âme, tu puises de leur feu pour t'éclairer. La terre te réserve des pièges tant redoutés, plus que tu n'osais craindre, et ton pas s'est dorénavant resserré. La peur chasse la grâce, l'inconnu s'éloigne. Le connu te rassure et devient ton royaume. Mais vivre, c'est accueillir ce que l'aube témoigne. La surprise émerveillée, l'imprévu qui nous nomme. Ton cœur murmure en secret tes étoiles intimes, te parle de lumière en ta nuit solitaire. Mais sais-tu ce qui danse au-delà de l'abîme? Des soleils, des lunes errantes, d'autres terres, des trous noirs dévorants, des quasars fulgurants, des astéroïdes en dérive. Et des étoiles aussi, comme en ton cœur reclus, mais ô combien plus grande. Un cosmos sans mesure, où l'infini resplendit loin de toi. Vous reconnaîtrez que notre époque connaît un paradoxe étrange. Jamais l'humanité n'a possédé autant de connaissances sur l'univers qui nous entoure. Les télescopes scrutent des galaxies situées à parfois des milliards d'années-lumière. Les sondes spatiales explorent les confins de notre système solaire. Et les physiciens élaborent des théories vertigineuses sur la nature du temps, de l'espace et de la matière. Et pourtant, jamais peut-être les êtres humains n'ont si peu levé les yeux vers le ciel nocturne. Nous sommes enfermés dans nos villes illuminées où la pollution lumineuse efface les étoiles, absorbées par nos écrans qui captent toute notre attention, nous avons perdu ce contact immédiat, sensible, avec l'immensité cosmique qui fut pendant des millénaires l'expérience commune de l'humanité. Parallèlement à cette perte de contact avec le cosmos extérieur, nous assistons à une inflation du discours sur l'intériorité. On nous invite constamment à nous recentrer, à plonger en nous-mêmes, à cultiver notre jardin intérieur, à découvrir l'univers qui se cache dans notre cœur. Eh bien, ces invitations ne sont pas dénuées de valeur. La vie contemplative, l'exploration des profondeurs de la conscience, la méditation sur notre espace intérieur constituent effectivement des dimensions, somme toute, essentielles de toute existence humaine mature. Mais ce mouvement vers l'intérieur peut aussi devenir, si l'on y prend garde, une forme subtile de fermeture, un repli sécuritaire déguisé en quête spirituelle. Mon poème met précisément le doigt sur cette ambiguïté. Il s'adresse à quelqu'un qui a cessé de regarder le ciel étoilé, non par négligence ou encore indifférence, mais au contraire au nom d'une certaine conception de la spiritualité. Et cette personne affirme fièrement avoir intériorisé les étoiles, les avoir fait migrer du firmament extérieur vers l'espace du cœur. Elle préfère leur clarté interne à leur éclat externe. Cette position possède une faiblesse apparente. Elle semble témoigner d'une maturité spirituelle, d'un dépassement de la fascination naïve pour les phénomènes extérieurs au profit d'une intériorisation plus profonde. Les traditions mystiques ont effectivement toujours insisté sur la nécessité d'un retournement du regard. Le bouddhisme enseigne que la vérité ultime ne se trouve pas dans le monde des phénomènes extérieurs, mais dans la nature de l'esprit lui-même. Le christianisme mystique parle du royaume de Dieu qui est au-dedans de nous. La philosophie grecque depuis Socrate invite à la connaissance de soi comme fondement de toute sagesse. Cette tradition du retour vers l'intérieur traverse absolument toute l'histoire de la pensée et de la spiritualité humaine. Elle possède une légitimité indiscutable. Mais mon poème suggère subtilement qu'il pourrait y avoir ici quelque chose d'autre qu'une authentique démarche spirituelle. Le ton que j'emploie consciemment le laisse entendre, cette fierté dans l'affirmation, cette préférence un peu trop assurée pour l'intérieur contre l'extérieur, cette plongée dans l'ignorance de ce qui se trouve réellement dehors. Quelque chose sonne faux dans cette posture. Comme si elle servait à justifier non pas une véritable élévation, mais plutôt une forme de contraction, un rétrécissement du champ d'expérience. La suite du poème éclaire cette ambiguïté en révélant ce qui motive réellement ce repli intérieur, la peur. Cette personne que je désigne, dont je parle, a tant parlé des périls du monde, tant insisté sur les dangers qui guettent, tant redouté les pièges de l'existence terrestre, qu'elle a fini par se barricader dans un espace sécurisé. Son pas s'est resserré et son mouvement s'est contracté. Le monde est devenu un territoire hostile qu'il faut traverser avec précaution, en évitant les embûches, en limitant les risques. Cette attitude prudente, cette vigilance constante face aux menaces possibles transforme progressivement l'existence en un parcours défensif, où finalement on cherche avant tout à ne pas souffrir, à ne pas être blessé, à ne pas être déçu. Eh bien, cette peur qui gouverne secrètement l'existence n'est pas toujours consciente. Elle se déguise souvent en sagesse, en prudence virtueuse, en réalisme lucide. On se dit qu'on a compris comment fonctionne le monde, qu'on ne se fera plus avoir, qu'on a tiré les leçons de ses erreurs passées. On élabore des stratégies de protection. On érige des sortes de murs invisibles. On limite ses engagements pour limiter les risques de souffrance. Et progressivement, sans qu'on s'en aperçoive vraiment, eh bien l'espace de vie se rétrécit. On ne s'aventure plus que dans le connu, le familier, voire le contrôlé. Tout ce qui pourrait surprendre, déstabiliser, remettre en question, devient suspect et doit être finalement évité. La formule de mon poème possède une justesse psychologique, je pense. La peur chasse la grâce. La grâce dans son sens théologique, désigne ce don gratuit qui vient d'ailleurs, qui échappe à notre contrôle et qui surgit de manière totalement imprévue pour finalement nous transformer. Mais la grâce suppose une ouverture. Elle suppose une disponibilité, une capacité à accueillir ce qui vient sans l'avoir programmé. L'être gouverné par la peur ne peut plus recevoir la grâce, bien tout simplement parce qu'il a fermé toutes les portes par lesquelles elle pourrait entrer. Il s'est construit une forteresse intérieure, certes sécurisante, mais qui est aussi une prison. Cette dynamique de la peur qui rétrécit l'existence se retrouve à tous les niveaux de la vie humaine. Dans les relations, combien de personnes blessées par des amours passés se ferment progressivement à toute rencontre véritable, préférant la solitude contrôlée au risque de l'intimité. J'en connais. Dans la vie professionnelle, combien renoncent à poursuivre leurs aspirations profondes par crainte de l'échec, se contentant d'une sécurité médiocre. J'en connais encore. Dans la vie spirituelle même, combien se réfugient dans des certitudes rassurantes, des rituels confortables, des croyances qui ne dérangent plus vraiment par peur d'affronter le mystère véritable qui est toujours déstabilisant au final. Et encore une fois, j'en connais. Le connu devient alors un royaume, un territoire familier où l'on règne en maître, mais qui est aussi un exil volontaire. On préfère être souverain d'un petit domaine balisé plutôt que simple voyageur dans l'immensité inconnue. Cette préférence possède une logique compréhensible. Le connu nous rassure et il nous donne des repères. Il nous permet de prévoir et donc de contrôler. Donc le connu, dans ce connu, nous savons qui nous sommes, ce qui va se passer, comment réagir. L'inconnu, au contraire, lui nous place en situation de vulnérabilité. Il nous confronte à notre ignorance, à notre impuissance et à notre fragilité. Mais voilà précisément ce que mon poème vient questionner avec une douceur néanmoins ferme. Peut-on vraiment appeler cela à vivre ? Vivre authentiquement ne suppose-t-il pas au contraire une capacité à accueillir l'imprévisible, à se laisser surprendre, à consentir à ne pas tout maîtriser ? L'aube, dont je parle dans mon texte, témoigne chaque jour de ce recommencement, de cette nouveauté qui surgit alors même qu'on pourrait croire que tout se répète. Chaque lever de soleil est à la fois semblable et différent, à la fois attendu et surprenant. Celui qui sait vraiment voir l'aube ne la considère jamais comme simple répétition d'un phénomène connu. Il y découvre à chaque fois quelque chose d'unique, d'imprévisible, qui appelle son émerveillement. L'émerveillement constitue précisément cette capacité fondamentale que la peur détruit progressivement. S'émerveiller, c'est accepter d'être touché par ce qui nous dépasse, par ce que nous ne contrôlons pas, finalement, par ce qui échappe à nos catégories habituelles. L'enfant, lui, s'émerveille facilement, car il ne craint pas encore vraiment le monde. Il ne s'est pas encore construit toutes ses défenses qui rigidifient l'adulte. Mais cet émerveillement enfantin n'est pas le dernier mot. Il existe une capacité d'émerveillement mature, conquise non pas dans l'innocence naïve, mais au-delà de la peur traversée, assumée, transcendée. Les grands mystiques et les grands artistes partagent cette capacité à s'émerveiller qui ne les quitte jamais. Ils gardent jusqu'au bout cette fraîcheur du regard qui voit le monde comme pour la première fois. Cette fraîcheur n'est pas de l'ignorance, mais au contraire une forme de lucidité supérieure. Ils ont vu les périls, traversé les souffrances, Ils ont connu les trahisons et ils ont aussi connu beaucoup de déceptions. Mais tout cela ne les a finalement pas fermés. Au contraire, ces épreuves les ont même rendus plus ouverts encore, plus capables d'accueillir, plus sensibles à la beauté fragile et éphémère de chaque instant. Mon poème évoque ensuite avec une grande délicatesse ce dialogue intérieur que chacun entretient avec ses propres étoiles. Il ne nie pas la réalité ni la valeur de cette vie intérieure, attention. Le cœur murmure, effectivement, en secret, et les étoiles intimes parlent vraiment de lumière dans nos nuits solitaires. Cette dimension contemplative de l'existence possède une importance capitale. Nous avons besoin de ce retrait périodique, de ces moments où nous nous retrouvons face à nous-mêmes, où nous écoutons ce qui se dit dans le silence de notre intériorité. Mais mon poème pose alors une question simple qui ébranle toute la construction. Savons-nous vraiment ce qui se trouve au dehors ? Connaissons-nous l'immensité réelle du cosmos que nous prétendons avoir intériorisé ? Cette question n'est pas rhétorique. Elle met le doigt sur une illusion fondamentale. Nous croyons trop souvent connaître le monde alors que nous ne connaissons que l'image restreinte que nous nous en sommes faites. Nous prenons notre représentation mentale pour la réalité elle-même. Et quand nous déclarons avoir intériorisé cette réalité, c'est en fait une version appauvrie, domestiquée, réduite aux dimensions de notre compréhension que nous avons intériorisée. L'énumération finale déploie alors toute la splendeur terrifiante du cosmos véritable. Les soleils innombrables, les lunes errantes, les autres terres où pourrait exister la vie, les trous noirs qui dévorent tout ce qui va s'approcher d'eux, les quasars qui brillent avec une intensité inimaginable, les astéroïdes qui dérivent dans un vide sidéral. Et oui, aussi des étoiles, comme celles que nous prétendons avoir dans notre cœur, mais combien plus grandes, combien plus nombreuses, combien plus mystérieuses que tout ce que notre cœur pourrait contenir. Cette évocation n'est pas une simple exhibition d'érudition astronomique, vous l'aurez compris. Elle vise à relayer en nous le sens de la démesure, de la disproportion absolue entre nos petitesses et l'immensité qui nous entoure. Les connaissances scientifiques contemporaines nous révèlent un univers d'une vastitude qui défie littéralement l'imagination. Des milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles, séparées par des distances qui se mesurent en années-lumière. Des phénomènes d'une violence et d'une puissance qui réduisent à néant toutes nos catégories terrestres. Des énigmes comme la matière noire et l'énergie sombre qui constituent l'essentiel de l'univers mais demeurent totalement mystérieuses. Face à cette immensité, deux attitudes opposées sont possibles. La première consiste à se sentir écrasé, dépossédé de toute importance, réduit à l'insignifiance absolue. Si l'univers est si vaste, et que nous sommes si petits, si notre planète n'est qu'un grain de poussière dans l'immensité cosmique, si notre existence entière ne représente qu'un clin d'œil, finalement, dans l'histoire de l'univers, alors je vous pose une question, à quoi bon ? Cette vertigineuse disproportion peut conduire à une forme de désespoir nihiliste, à une forme de sentiment que rien n'est finalement d'importance, puisque tout est englouti dans cette vastitude indifférente. Mais je suis intimement persuadé qu'une autre attitude est possible. Et elle fut d'ailleurs celle des grands contemplatifs d'absolument toutes les traditions. Cette immensité, au lieu de nous écraser, peut nous élever. Elle nous arrache à nos petites préoccupations égoïstes, à nos soucis mesquins et à nos peurs étriquées. Elle nous rappelle que nous participons de quelque chose d'infiniment plus vaste que notre existence individuelle. Elle ouvre notre conscience à une dimension de transcendance qui nous libère de la prison du moi. Blaise Pascal formula admirablement ce double sentiment dans ses pensées. L'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. L'univers peut l'écraser d'un souffle, mais l'homme possède cette dignité extraordinaire de pouvoir penser l'univers qui l'écrase. Et il y a là une grandeur paradoxale de la condition humaine. Nous sommes infiniment petits, dans l'ordre de l'espace et du temps, mais au fond, nous possédons cette capacité prodigieuse de comprendre, d'admirer, de nous émerveiller devant l'immensité qui nous dépasse. Cette ouverture au cosmos extérieur ne s'oppose pas vraiment à l'exploration intérieure. Les deux mouvements peuvent et doivent d'ailleurs se compléter. Il existe une dialectique vivante entre le dedans et le dehors, le microcosme et le macrocosme. Les traditions hermétiques l'ont toujours su. Eux qui voyaient dans l'être humain un univers en miniature reflétant l'ordre du grand univers. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, proclame la table d'émeraude. Eh bien, cette correspondance entre l'intérieur et l'extérieur signifie que la véritable connaissance suppose un va-et-vient constant entre les deux. Mais pour que ce va-et-vient soit finalement fécond, il faut que chaque pôle soit honoré dans sa spécificité. L'intériorité ne doit pas devenir un refus du dehors. Et l'ouverture au cosmos ne doit pas se disperser dans l'extériorité pure. Il s'agit de maintenir une tension vivante, un dialogue permanent entre notre profondeur intime et l'immensité qui nous entoure. Et quand nous levons les yeux vers le ciel étoilé, eh bien nous ne fuyons pas notre intériorité. Au contraire, nous lui donnons sa vraie dimension en la confrontant à ce qui la dépasse infiniment. Kant écrivait que deux choses le remplissaient d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelles. Le ciel étoilé au-dessus de sa tête et la loi morale de son cœur. Cette formule unit magnifiquement les deux dimensions. Le cosmos extérieur et la conscience morale intérieure sont les deux faces d'un même mystère. Les deux lieux où vont se manifester quelque chose qui nous transcende absolument. On ne peut vraiment honorer l'un en ignorant l'autre. Le danger que pointe le poème est précisément celui d'une spiritualité qui se coupe du réel sous prétexte d'intériorité. Une spiritualité authentique ne peut être fuite du monde, mais au contraire engagement plus profond avec lui. Elle ne cherche pas à échapper au péril de l'existence, mais à les traverser avec une conscience plus éveillée, un cœur plus ouvert, une forme de capacité d'émerveillement préservée malgré tout. Les grands maîtres spirituels n'ont jamais été des êtres repliés sur eux-mêmes, protégés dans leur bulle intérieure. Ils ont été au contraire des êtres d'une ouverture extrême, d'une disponibilité totale, et même, j'ose dire, d'une vulnérabilité assumée. Et cette vulnérabilité, justement, constitue peut-être le cœur du message. Accepter de lever les yeux vers le ciel étoilé, c'est accepter d'être vulnérable face à l'immensité qui nous dépasse. Et c'est renoncer à la maîtrise, au contrôle, à la sécurité du connu. C'est s'exposer au vertige, à l'inquiétude, à l'émerveillement qui déstabilise autant qu'il enchante. Mais c'est aussi accéder à une forme de liberté supérieure, celle de l'être qui ne se laisse plus gouverner par la peur et qui ose affronter l'inconnu, qui consent à être transformé par ce qui le dépasse. L'appel final de mon poème possède donc une double dimension. Il est d'abord invitation à l'humilité, nos étoiles intérieures, aussi précieuses soient-elles, ne doivent pas nous faire oublier l'immensité réelle qui existe au dehors, indépendamment de nous. Mais il est aussi l'invitation à l'émerveillement renouvelé. Le cosmos sans mesure continue de resplendir que nous le regardions finalement ou non. Et nous pouvons choisir de nous ouvrir à nouveau à sa splendeur plutôt que de nous enfermer dans notre forteresse intérieure. Eh bien, mon poème avait la visée de nous interroger avec, finalement, tendresse sur nos replis sécuritaires. Sur ces retraits que nous habillons parfois d'oripeaux spirituels, mais qui sont surtout des fuites devant ce qui nous effraie. Il nous rappelle que vivre authentiquement suppose d'accepter l'imprévu, l'inconnu, la surprise, qui nous nomme et nous fait exister vraiment. Il nous invite à ne pas confondre l'intériorité véritable avec le rétrécissement craintif de notre champ d'expérience. Alors en conclusion, puisse ce texte vous encourager à lever à nouveau les yeux vers le ciel nocturne et à vous laisser saisir par l'immensité qui vous entoure et vous dépasse infiniment. Puisse-t-il également vous libérer de cette peur qui resserre votre pas et rétrécit considérablement, votre royaume. Puisse-t-il réveiller en vous cette capacité d'émerveillement qui est la marque des êtres vraiment vivants, ceux qui n'ont pas abdiqué devant les périls du monde, mais qui continuent d'accueillir avec une joie tremblante tout ce que l'aube témoigne et tout ce que l'infini fait resplendir bien au-delà de nos cœurs trop petits. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.